Ok Google, Alexa, dit Siri, ces mots, vous les avez forcément déjà entendus. Mais que vous utilisiez ou non des assistants vocaux, vous n'avez pas pu passer à côté de leur développement. Quasiment inexistant il y a 10 ans au lancement de Siri, les assistants vocaux sont aujourd'hui de plus en plus présents dans notre quotidien et de plus en plus d'entreprises développent le leur. Google, Amazon, Apple, Samsung, mais aussi Microsoft et même Sonos. S'ils se multiplient, ces assistants ne sont pourtant pas à l'abri des critiques et de la méfiance. L'utilisation des données personnelles et la confidentialité sont notamment pointées du doigt par les consommateurs, tout comme les interactions limitées et le recours au cloud. Pourtant, malgré tout ça, ce secteur est en pleine croissance et devrait même représenter 7,5 milliards de dollars en 2024. Alors devant ce constat, à Siècle Digital, on s'est dit qu'on allait faire un petit point sur les assistants vocaux, leurs histoires, leurs avancées et leur fonctionnement, mais aussi ce qu'on leur reproche et leur avenir. Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes allés voir plusieurs experts. Le premier est Joseph Duro, vice-président expérience vocale chez Sonos. Le deuxième est Luc Julia, co-créateur de Siri, l'assistant d'Apple. Alors sans plus attendre, c'est parti, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital.
I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.
Ok Mogul, quelle est la capitale du Turkestan ?
Alexa, allume la lumière.
D'accord.
Ok Gogol, tu peux mettre ma playlist préférée ?
Hey Siri, read my schedule.
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, avant de continuer d'aller plus loin, posons-nous une question. C'est quoi un assistant vocal ? Selon la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un assistant vocal, c'est un ensemble de ressources logicielles permettant de réaliser les traitements de la voix et du langage afin de répondre à la requête d'un utilisateur. Bon, en d'autres termes, un assistant vocal répond vocalement et par écrit, selon le modèle, à la requête qu'un utilisateur a formulée vocalement. Bon, maintenant qu'on est tous d'accord sur la définition, on peut continuer. Les assistants vocaux, quand on y réfléchit, eh ben c'est pas bien vieux. Et pourtant, ils sont déjà partout aujourd'hui, dans nos smartphones, nos enceintes, nos voitures, nos maisons. Il y a pile 10 ans, d'ailleurs, sortait l'iPhone 4S d'Apple, qui lançait en même temps Siri, un assistant vocal que beaucoup connaissent aujourd'hui, pour ne pas dire tout le monde. Hein. Et avant Siri, avant 2011-2012, il y avait quoi ? Eh ben, pas grand-chose, en fait. Hein. Il y avait bien des logiciels que certains pourraient aujourd'hui d'ailleurs qualifier d'assistants vocaux qui permettaient, par exemple, de dicter ce qu'on voulait écrire. C'est le cas de Dragon Dictate, apparu en 1993, mais ça ne ressemblait pas vraiment à ce qu'on connaît aujourd'hui, ni même au Siri de l'iPhone 4S, qui était quand même assez révolutionnaire en son genre, hein, parce que Dragon Dictate, comme beaucoup dans les années 90, ne pouvait que retranscrire par écrit ce qu'on dictait à l'oral, ça n'allait pas vraiment plus loin que ça. C'est pour ça qu'on peut dire que Siri est un peu le pionnier, le premier. Et aujourd'hui, il existe donc deux types d'assistants vocaux. Ceux qui sont multitâches, Siri, l'assistant Google, Alexa, et ceux qui sont spécialisés, comme par exemple celui de Sonos, Sonos Voice Control, avec des fonctionnalités limitées et uniquement destinées, dans le cas de Sonos, à la musique. Pourtant, avec l'apparition de Siri, l'idée de base n'était pas exactement de donner ces deux formes qu'on connaît aujourd'hui, c'était plutôt d'aller plus loin que les multitâches, d'avoir une vraie interaction, comme si vous parliez à votre ami, à une personne réelle. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Luc Julia, co-créateur de Siri.
Pure curiosité, mais est-ce que vous utilisez Siri au quotidien ?
Ouais, bah, je pense que comme tout le monde, en fait, c'est-à-dire que j'utilise pas comme nous, on avait pensé qu'on allait utiliser ces assistants, c'est-à-dire que on aurait pu croire que ça allait être le petit criquet sur notre épaule à qui on allait parler toute la journée et lui demander des trucs toute la journée. Donc c'était un peu le concept dans les années 90, c'était l'idée. Donc je pense que c'est pas comme ça qu'on l'utilise parce qu'on se rend compte que ça marche pas si bien que ça. Hein, donc on est quand même très clair là-dessus. Et du coup, bah, tout le monde, je pense, a trouvé un ou deux usages. Et il l'utilise juste pour ces choses-là, qui sont des choses simples, comme envoie un SMS à maman, appelle papa, allume la lumière, enfin, des choses comme ça. Donc, des trucs très, très simples, mais la musique, etc. Donc, je pense que le truc le plus utilisé dans la maison, c'est mais la musique, hein, globalement. Mais j'utilise pas comme je l'ai pensé qu'on pourrait l'utiliser à longueur de journée, parce que aussi il faut dire que les devices, le matériel sur lequel on va parler, sauf les enceintes connectées qui sont globalement autour de nous, mais sinon même les téléphones, c'est pas si pratique que ça, parce qu'il faut quand même l'allumer, appuyer sur un bouton ou quelque chose. Enfin, c'est pas tout à fait aussi pratique que ce qu'on aurait pu imaginer à un moment donné. Alors bon, Siri a exactement 10 ans, hein, puisque c'était, comme j'ai dit, en octobre 2011. En 10 ans, ça a quand même un peu progressé.
Oui.
Et Siri n'a pas été justement celui qui a progressé le plus.
Ah.
Donc, dans les années 2013-2014, est arrivé un nouveau type d'assistant, un nouveau type de technologie, en fait, qui est en dessous de ces assistants. Au lieu d'utiliser, on va dire, du machine learning, donc de l'intelligence artificielle un peu classique, on commençait à utiliser du deep learning, donc quelque chose d'un peu plus costaud. Et Siri n'a pas pris ce tournant-là, tandis que c'est juste à ce moment-là qu'est arrivé Alexa, qui a utilisé le full potentiel de cette technologie, et Google, avec son Google Assistant, lui, a réussi à aussi faire le virage, et donc ils ont utilisé aussi cette technologie. Donc du coup, sont arrivés dans les années 2013, 2014, 2015, ces nouveaux assistants. Il y avait aussi Microsoft avec Cortana qui a fait ça. Donc il y avait trois assistants qui se battaient avec Siri un peu derrière. Mm-hmm. Mais ce qui est important, c'est la compréhension, parce que c'est pas seulement reconnaître les mots, il faut reconnaître le sens. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ce qu'on appelle le langage naturel.
Voilà donc un peu la vision à l'origine de tout ça qu'avait Luc Julia. Et on voit qu'on en est quand même aujourd'hui assez loin. Les interactions avec les assistants vocaux ne vont pas jusque-là, mais reste qu'aujourd'hui, ces outils sont quand même partout. Pour vous donner une idée, je vais vous parler de quelques chiffres. D'ici 2024, ce marché devrait représenter environ 7,5 milliards de dollars. Quand même, c'est pas rien. Et selon une étude réalisée par Isoscale pour La Poste en 2021, pas moins de 20 millions de Français utilisent des assistants vocaux. Parmi eux, 3,2 millions en utilisent d'ailleurs via des enceintes connectées. Donc un taux de pénétration plutôt correct, hein, du coup. Au final, cette étude nous apprend que plus d'un Français sur deux utilise un assistant vocal et 77% d'entre eux considèrent que l'assistant vocal améliore leur quotidien. Alors bien sûr, ces chiffres varient selon les pays, mais pour les pays riches, les pays occidentaux surtout, cette tendance se vérifie plutôt. Et on peut expliquer ce taux de pénétration plutôt bon par la multiplication des assistants vocaux qui aident à faire grandir ce marché. Vous connaissez Siri, l'assistant Google et Alexa. Les utilisateurs de Samsung connaissent aussi Bixby. Et si vous êtes fan de musique, vous connaissez peut-être Sonos Voice Control. Certains ont tenté l'expérience sans succès aussi, comme Microsoft avec Cortana. Et quand on fait cet état des lieux du marché aujourd'hui, on se pose rapidement une question. Qu'est-ce qui différencie tous ces assistants vocaux techniquement ? Certains seront bien sûr plus performants que d'autres pour comprendre certaines requêtes utilisateurs, c'est sûr. Mais globalement, il y a surtout deux types d'assistants. Je ne parle pas ici de ceux qui sont multitâches et ceux qui sont spécialisés, même si c'est lié. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a ceux qui fonctionnent en local et ceux qui traitent les données en ligne sur un cloud. Ces derniers, en cloud, sont les plus répandus, mais aussi les plus critiqués. La fameuse rengaine du « Alexa nous écoute tout le temps et envoie toutes ses données à Amazon », vous l'avez d'ailleurs sûrement déjà entendu.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat que la majorité des utilisateurs, ou en tout cas beaucoup d'utilisateurs ou de potentiels consommateurs, ont un peu de défiance, sont un peu méfiants par rapport à tout ça et ont peut-être même peur des fois que leurs données soient mal utilisées?
Ouais. Alors bon, il y a beaucoup de misconceptions quand même. Hein. Il faut être clair qu'ils sont pas complètement tarés, les Apple, les Amazon et autres Microsoft. C'est-à-dire qu'ils font pas exprès de faire des trucs où ils savent que si la CNIL ou les autres trouvaient que c'est pas bien, ils se prendraient des amendes de quelques millions, quoi. Donc ils font quand même super gaffe. Et c'est vrai que quand on dit Alexa nous écoute en permanence ou Siri nous écoute en permanence, c'est pas vrai. Il faut quand même être très très clair. Maintenant, c'est vrai, et c'est une bonne nouvelle, en France en particulier, on est beaucoup plus méfiant, et on a raison, parce qu'il faut quand même faire attention. Et je suis très très content, en fait, que depuis mai 2018, grâce à RGPD, les gens se sont rendus compte qu'il y avait potentiellement un problème. La régulation, ici, a amené une sorte d'éducation, et les gens se sont dit, bah tiens, pourquoi il y a une régulation ? Et ils se sont dit, bah, il y a une régulation parce qu'il y a un potentiel de danger.
Reste que malgré tout, malgré les progrès technologiques qui sont faits et les lois qui sont promulguées, la méfiance est toujours de mise face à ça et à des attentes de consommateurs en pleine mutation. Certains fabricants innovent, les consommateurs, les utilisateurs font en effet de plus en plus attention, sont de plus en plus sensibilisés sur l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles et de la confidentialité. Donc certains fabricants s'adaptent, c'est notamment le cas de Sonos, célèbre marque d'audio donc, qui a récemment lancé Sonos Voice Control, un assistant virtuel qui fonctionne en local, comme nous l'a expliqué Joseph Dureau, en charge de l'expérience vocale dans l'entreprise.
Une des raisons qui a amené Sonos à développer sa propre solution de contrôle vocal, c'était d'une part le constat que l'utilisation de la voix apportait de la valeur aux utilisateurs. Donc c'est une interface qui, sur le principe, on se dit ça rend encore plus facile, encore plus direct l'accès à la musique, encore plus facile le contrôle de son système. On n'a même pas besoin de sortir son téléphone. En ayant investi dessus, on s'est rendu compte au travers des chiffres que c'était confirmé. Un utilisateur, quand il se met à utiliser la voix, il est plus satisfait de son système. Donc la valeur de la voix, elle était claire. Mais par contre, on a fait un constat qui était très clair aussi, c'est qu'on avait beaucoup d'utilisateurs qui avaient des micros sur leur système Sonos et qui ne s'en servaient pas, qui faisaient le choix de ne pas activer un assistant vocal sur leurs enceintes. Et quand on leur demande pourquoi, la réponse numéro une, la raison qu'ils donnent, c'est le souci de leur vie privée. Et cette réponse-là, elle est uniforme. On pourrait se dire, ok, c'est spécialement un souci d'Européen, mais non, cette solution, cette réponse, elle est la même quand on regarde la France, l'Allemagne, le Japon ou les États-Unis. Dans tous les cas, on a une fraction importante et à peu près équivalente de gens qui refusent d'utiliser la voix pour cette raison-là. Donc Sonos s'est dit, bon, les gens aiment la voix c'est une solution simple de contrôle de la musique, mais il y a ce problème de respect de la vie privée. Donc on va voir si on ne peut pas trouver une solution qui permet de répondre à tous ces paramètres-là. Et cette solution-là, c'est celle qu'on a développée.
Et qu'est-ce qu'elle a de différent, de nouveau, cette solution, de plus peut-être que les autres ?
Alors, ce qui est... Donc, elle est très différente. Une des grandes différences, c'est que ce n'est pas un assistant généraliste. C'est un assistant qui se concentre sur l'expérience Sonos, donc contrôle de votre musique, contrôle de votre système. Donc, en changeant le périmètre de l'assistant, ça permet de changer les paramètres, les contraintes avec lesquelles on a géré. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir une solution qui est très différente au niveau du respect de la vie privée, puisque tout le traitement, toute l'interprétation de ce que vous dites va se faire en local sur l'assistant auquel vous parlez. Il n'y a aucune voix, aucune retranscription, rien qui ne quitte votre foyer. Vous pouvez activer Sonos Voice Control et l'incidence sur vos données personnelles et sur vos vies privées est nulle. C'est la même que si vous utilisiez votre téléphone.
Donc pas de cloud.
Pas de cloud. La musique vient du cloud, donc on a tout de suite cette question-là. Donc la musique, elle va bien venir du cloud. Donc quand vous voulez jouer les Beatles, il va bien falloir aller demander à votre service de musique, donc typiquement Apple Music, cet utilisateur veut jouer les Beatles sur son enceinte. Mais ce qui quitte votre foyer, quand vous utilisez Sonos Voice Control, c'est la même chose que ce qui quitterait votre foyer si vous lanciez les Beatles depuis une application. C'est du texte qui dit Beatles à Apple Music et eux, ils prennent le relais, ils lancent la musique. Mais l'interprétation, elle se fait chez vous. Donc il n'y a pas d'audio, pas de voix, pas de retranscription de ce que vous dites qui quitte votre foyer. La raison principale et ce qui nous a motivés à faire tous les efforts pour rendre ça possible, c'était le respect des données personnelles. Mais ça a plein de... valeur ajoutée. Donc le fait de faire le traitement local, ça permet déjà d'avoir des réactions qui sont beaucoup plus rapides, puisque dans un certain nombre de cas, il n'y a pas besoin de faire un aller-retour vers le cloud. Par ailleurs, ça permet aussi d'augmenter la précision de la solution. Et donc ça va permettre une robustesse et une précision de la compréhension vocale qui va être plus forte. On a sorti Sonos Voice Control pour le marché américain le 1er juin. Donc là, ça fait quelques mois. Donc on a des réactions très positives. Le fait que ça soit extrêmement simple, on a beaucoup de gens qui nous disent « ça, c'est la solution que j'attendais. Jusque-là, je n'avais pas forcément confiance. J'étais pas suffisamment à l'aise pour activer un assistant vocal chez moi et je me mets à adopter Sonos Voice Control. » Donc ça, c'est un retour qualitatif. C'est des gens qui nous disent ça. Et ça, on le voit aujourd'hui dans les utilisateurs Sonos Voice Control. On a 40% qui sont des gens, donc une fraction importante, qui sont des gens qui n'utilisaient pas la voix par ailleurs, qui avaient fait le choix de ne pas utiliser d'autres assistants vocaux.
Sonos Voice Control, contrairement à Google Assistant ou Alexa, n'est donc pas multitâche dans le sens où son utilisation est dédiée uniquement à la musique. N'espérez donc pas l'utiliser comme les autres assistants vocaux du coup, mais reste qu'un assistant fonctionnant en local était apparemment une vraie demande des utilisateurs selon Sonos. D'ailleurs, Joseph Dureau nous a justement expliqué que ce fonctionnement en local, c'est forcément une partie de l'avenir. pour parler de l'industrie peut-être de manière plus large, est-ce qu'il y a un défaut justement dans ce secteur pour vous actuellement, en prenant en compte du coup tous les assistants vocaux? Est-ce que c'est peut-être justement la gestion des données?
Ouais, un problème fondamental, c'était effectivement la gestion des données personnelles. Après, il y a la réalité de la technique et il y a le sentiment de confiance qu'on crée chez les utilisateurs. Et c'est deux choses un peu différentes. Et si je m'inscris sur le deuxième, on sait qu'aujourd'hui, c'est encore une technologie auquel plein de gens sont réticents pour ces raisons-là. Donc, c'était important pour nous d'arriver avec un descriptif, une solution de proposition de valeur qui soit aussi simple que possible. Mais il y a énormément de pédagogie et d'amélioration à faire sur ce front-là pour que globalement, il y ait une adoption plus massive de la voix. Donc, on voit qu'il y a eu une première phase d'adoption de la voix qui a été poussée par Google et Amazon, en particulier aux États-Unis. Et donc là, on observe un peu un ralentissement parce qu'il y a le premier groupe de gens qui sont un peu des early adopters ou qui sont intéressés par type de technologie qui ont sauté dessus et qui ont fait le choix d'y aller malgré les questions qui pouvaient se poser pour des questions de données personnelles. Si on veut vraiment atteindre une adoption de masse, je pense qu'il va falloir avancer pour gagner cette confiance au global. Et c'est pour ça que nous, on est pionniers sur ce front-là et qu'on a investi lourdement là-dessus.
Mais toutefois, il faut nuancer quand même. Hein. Luc Julia, qui est donc à l'origine de Siri, je le rappelle, ne partage pas vraiment ce constat. Pour lui, l'avenir n'est pas le local, ou du moins pas comme on l'entend. On l'écoute.
C'est intéressant, mais c'est limité. Mais de toute façon, il va falloir comprendre bientôt, et je pense que les gens s'en aperçoivent justement avec l'utilisation qu'on fait des assistants vocaux aujourd'hui, et dont on parlait tout à l'heure, qui sont des utilisations très très ciblées. On se rend compte que ils sont spécialisés, ces assistants.
Mais à l'avenir, vous pensez qu'on n'arrivera pas à traiter autant en local que Google ou Alexa ne pourraient pas tout faire en local? C'est impossible.
Non, ça c'est impossible, c'est juste impossible. Justement, il faut imaginer qu'il faudrait que vous ayez, en gros, alors j'exagère un tout petit peu, mais en gros, ça veut dire que vous ayez tout Internet sur votre chose locale.
Un peu compliqué.
Donc c'est pas possible. Mais voyez, par contre, imaginez maintenant, alors nous on avait imaginé comme étant un mono-assistant, maintenant vous imaginez ça comme un multi-assistant, donc des assistants partout, donc un assistant pour le four, hein, qui va s'occuper de la cuisson des trucs, un assistant pour le frigo, un assistant pour les lampes, un assistant pour la musique. En parlant petit à petit, en s'adressant à ces choses-là, c'est un peu comme si on s'adressait à des domestiques, hein, pour être très clair, à laquelle on va dire, toi machin, tu fais ça, toi machin, tu fais ça. Et donc, chacun est spécialisé, et je pense que là, ça a du sens, et ça devient beaucoup plus faible en termes de technologie, on va dire, mais beaucoup plus efficace. En termes de ce que ça fait pour les utilisateurs.
La tendance du local peut donc se diffuser, se développer, mais à condition de rester très spécialisé, selon Luc Julia. Si l'on continue à vouloir des assistants vocaux capables de répondre à un immense panel de questions, il va donc falloir, chers auditeurs, se résigner à laisser vos données s'envoler dans les nuages. Voilà donc pour la tendance du local qui répond en partie à la méfiance des utilisateurs sur la confidentialité et l'utilisation de leurs données personnelles. Mais il existe un autre point de friction sur l'utilisation qui est faite des données personnelles récoltées via ces assistants. Et oui, on a bien compris, le local, c'est pas forcément l'avenir, ou du moins pas pour les assistants qu'on pourrait qualifier de multitâches. Alors une fois qu'Amazon et Google récoltent vos données, qu'en font-ils ? Eh bien, figurez-vous que souvent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, les données sont simplement stockées et utilisées pour améliorer le produit de manière anonyme. C'est ce que nous a expliqué justement Luc Julia alors qu'il appelait à la démystification autour des assistants vocaux.
Ça écoute en permanence pour le mot-clé. D'accord.
Oui.
Mais après, tout ce qui est dit après le mot-clé, ça part effectivement pour être reconnu sur le cloud. Et après, bon, la chose revient et c'est tout effacé. D'accord. Donc, Pas tout de suite, c'est facilement après quelques heures, mais en gros, si vous voulez, il y a rien qui est gardé pour être gardé. Il y a eu et il y a toujours aujourd'hui des choses, et c'est marqué en tout petit dans les ce qu'ils appellent les EULA, les End User License Agreement en français, je sais pas comment c'est. Et donc dans ces trucs, vous pouvez lire, vous ne lisez jamais parce que c'est trop long, mais vous pouvez lire si toutefois j'ai pas bien reconnu ce que tu as dit, je vais garder le morceau de phrase où la confiance que j'ai est faible, c'est-à-dire que à moins de 70% par exemple de confiance sur une reconnaissance, je vais garder ce morceau-là pour aller l'analyser et comprendre ce que tu as vraiment dit et ce qui a été reconnu et voir pourquoi la confiance est faible et potentiellement améliorer mes modèles avec ce morceau que je vais rajouter dans mon modèle. Donc c'est fait comme ça. C'est anonymisé dans le sens où on ne sait pas et on se fout d'ailleurs de savoir qui a dit ça.
Si, comme vous venez de l'entendre, Amazon vend certaines des données récoltées, il n'y a en réalité rien d'étonnant, il faut quand même le signaler. Alors oui, ça peut paraître limite, mais il n'y a rien d'illégal. Surtout, ça représente une solution de choix pour financer le système. Le cloud et les assistants vocaux, ainsi que leur développement, eh ben, ça coûte cher. Les entreprises doivent donc chercher un moyen efficace de les financer. Et comme bien souvent, la publicité et la vente de données personnelles est bien, bien rentable. C'est dans cette optique d'ailleurs que sur certains appareils Google, avant que l'assistant ne réponde à l'une de vos questions, vous pouvez avoir de la publicité. Amazon envisage de son côté de faire en sorte qu'Alexa réponde à des questions basiques et courantes via des annonces publicitaires. Alors encore une fois, ces pratiques vont oui ulcérer bon nombre d'utilisateurs, mais Luc Julia, comme d'autres d'ailleurs, appelle à relativiser.
Faut un peu démystifier tout ça, mais il y a des entreprises comme Amazon qui, il me semble, peuvent partager les données collectées à travers les interactions avec Alexa jusqu'à 41 partenaires publicitaires. Ça, manifestement, d'après ce que vous dites, faut démystifier quand même tout ça. Il n'y a pas des utilisations complètement folles ou illégales qui sont faites, quoi.
C'est pas illégal.
C'est quelque chose de normal. Il faut bien financer le système, comme vous l'avez dit.
Voilà, il faut bien financer. C'est pas illégal dans le sens où, là, aujourd'hui, dans la EULA, encore, on vous prévient. À partir du moment où on prévient, c'est pas illégal. Le truc, c'est que vous lisez pas la EULA. Donc ça, c'est
les fameuses conditions qui sont jamais.
Voilà, les CJU. Voilà, c'est ça. C'est les CGU en France.
C'est ça. Oui.
Et ces conditions générales d'utilisateur. D'utilisation, vous ne le lisez pas. Mais c'est marqué dedans. Donc tout est marqué dedans. Et donc c'est pour ça que légalement, ils sont OK. Mais maintenant, il y a de nouvelles lois qui arrivent, hein, maintenant avec l'Europe, avec la DMA, DSA, enfin tous les trucs qui arrivent maintenant, là, qui vont encore mettre la barre un peu plus haut que ce qu'a fait RGPD.
Ce problème de la publicité n'apparaît en tout cas pas sur les assistants limités, mais qui fonctionnent en local. Mais donc il va falloir quand même faire des concessions en tant qu'utilisateur, à en croire certains experts. Enfin, les assistants vocaux sont pointés du doigt pour la façon dont ils interagissent et répondent à certains moments. Par exemple, en 2019, l'UNESCO a publié un rapport qui dénonce les stéréotypes sexistes de certains assistants vocaux. Le nom et l'utilisation de voix féminines par défaut perpétuent, selon le rapport, une conception négative de l'image des femmes associée à des machines obéissantes et serviles. Le rapport critique aussi la façon dont les assistants personnels virtuels sont programmés pour répondre aux agressions verbales par des connotations sexuelles. Par exemple, pendant longtemps, à l'insulte « Hey Siri, tu es une ça... »
« What the... »
L'assistant d'Apple répondait « Si je pouvais, je rougirais. » Je terminerai en disant que de nombreux défis restent donc à relever pour les assistants vocaux et les constructeurs. Oui, le marché se développe à vitesse grand V. Oui, le taux de pénétration est globalement bon à l'échelle mondiale. Et la technologie progresse et avance de plus en plus depuis l'apparition de Siri. Mais les fabricants et les gestionnaires d'assistants vocaux doivent encore instaurer une confiance globale avec les utilisateurs, renforcer la transparence sur l'utilisation des données personnelles, mais aussi améliorer les interactions avec les utilisateurs. C'est d'ailleurs là le principal défi, selon Luc Julia, qui se veut aussi optimiste pour une technologie et un marché qui restent en pleine croissance malgré tout.
J'aimerais aussi vous demander si, pour vous, il y avait peut-être un défaut à retenir ou peut-être un aspect vraiment à améliorer en premier pour les assistants vocaux en général. Lequel ce serait ?
Ouais. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas très bon aujourd'hui, hein, dans le sens où c'est simple, on va dire, ça reconnaît ses phrases assez simples, c'est des commandes. Hein. C'est encore ce qu'on va appeler du « command and control ». D'accord, donc je envoie une commande et je contrôle quelque chose, donc allume la lumière, mets la musique, etc. Ce qui a amélioré, le Graal, la chose qu'on aimerait avoir, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus conversationnel. On parle des agents conversationnels quand on parle de ces agents ces assistants vocaux. En fait, ils sont très, 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 très loin aujourd'hui d'être des agents conversationnels. Et c'est quoi un agent conversationnel ? C'est quelqu'un avec qui on peut avoir une conversation. Et donc, la conversation, aujourd'hui, elle va se limiter à quelque chose comme peut-être un ou deux tours de ping-pong. Et donc, je vais avoir quelque chose comme « allume la lumière » et le truc va peut-être me dire « quelle lumière ?» Et moi, je vais répondre « la lumière dans la cuisine ». Alors, on n'est pas encore au machin qui va être où je vais pouvoir parler de la pluie et du beau temps, où je vais pouvoir avoir ces agents conversationnels qui vont être utiles, par exemple, pour des patients Alzheimer, où on a envie de leur coller un assistant vocal, que nous, on ne va pas le faire, quoi. On n'en est pas là. On peut s'approcher de quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ça va être dans des domaines spécifiques. Comme on disait tout à l'heure, on peut pas être multi-domaine, mais dans des domaines spécifiques comme la médecine ou d'autres choses, on va pouvoir certainement avoir des trucs qui sont plus conversationnels. Et je crois que c'est vers là qu'il faut aller. Et puis faire un peu plus de ping-pong que juste 2-3 échanges aujourd'hui.
Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la nouvelle saison et de la nouvelle formule de Culture Numérique. J'espère qu'il vous a plu. Les interviews de Luc Julia et de Joseph Duro seront à retrouver dans les semaines à venir en bonus. En attendant, vous pouvez écouter les autres épisodes sur siècledigital.fr ou sur toutes les plateformes de streaming. Je vous invite aussi à aller écouter le nouveau podcast de Siècle Digital intitulé Signaux Faibles, lui aussi disponible sur notre site et sur les plateformes. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à nous laisser notes et commentaires. À bientôt.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.